D'avoir accepté donc une carte blanche suite à cette rencontre dont il aura une carte blanche au cinéma Gaumont avec deux films qui sont La dixième victime et Antiviral, et en bonus un ami et collaborateur qui s'appelle Pierre Schumacher ou Rohrer,
comme tu veux,
voilà, qui présentera aussi son film Conte barbare, parce qu'aussi Pierre Schumacher a beaucoup travaillé avec Jacques. J'ai beaucoup de projets de films, mais on pourra en parler, mais qui n'ont pas souvent.
On avait un court métrage commun, mais qui n'a pas pu être. J'avais mis sur la liste, mais il n'a pas pu être.
Pardon, il y avait un problème, c'est que les films, je les ai en 35 mm, bien sûr.
Oui.
Mais le problème qu'il y a, on en a parlé suffisamment au téléphone.
Oui, c'est ça.
Le projecteur ne marche pas ici et tout.
Voilà.
Et il y a un deuxième, il y a un troisième film que j'avais fait, qui est un moyen métrage de 37 minutes, donc déjà qui était trop long au niveau de la jauge,
oui,
par rapport au festival. Mais par contre, j'ai emmené avec moi, pour une clé USB, si c'est possible, un teaser de 3 minutes du film qu'on a, que Jacques Barbéry a concocté au niveau scénario, qui s'appelle Histoire d'ombre. Ça peut être un petit bonus au cas
où. Ok, donc on verra ça tout à l'heure.
On verra ça tout à l'heure. Et donc je tenais à dire que Jacques. Et moi, on a concocté une série, on a écrit beaucoup de choses qui n'ont pas encore vu le jour, c'est compliqué.
Mmh.
Tout est très compliqué, mais en même temps, il y a une série qui s'appelle Cerveau Direct, qui est à la recherche de producteurs, de gens, etc., et qui, à mon avis, est très barbarienne dans son univers.
Alors, moi, juste pour se mettre dans le bain, donc voilà, thématique, les mondes d'après. Qu'est-ce que toi ça t'évoque comme thématique, cette thématique, ces mondes d'après, est-ce que tu serais l'écrivain des mondes d'après? Et toi, déjà, comment t'as vécu un peu ces derniers mois et tout ça,
Par rapport au confinement, déconfinement,
oui,
etc. Ah ben, pour moi, ça a été un moment évidemment très particulier, hein. Je pense comme tout le monde, c'est la première fois quand même que le monde s'arrêtait presque de vivre comme il avait l'habitude jusque-là, de façon un petit peu hystérique et chaotique, et tout d'un coup on retrouvait un univers plutôt calme, paisible, la nature reprenait un tout petit peu ses droits. Donc c'était quand même c'était une expérience assez exceptionnelle. Donc moi j'ai vécu ça plutôt de manière très positive. Mais après, ça m'est un peu retombé sur la gueule quand ça s'est terminé, que le déconfinement a eu lieu et que je me suis rendu compte que finalement tout allait repartir comme avant, et que le monde d'après, en fait, tel qu'on pouvait se l'imaginer, n'allait pas exister. Parce que le monde capitaliste, le monde ultralibéral, lui, avait continué de vivre de la même manière, et que la parenthèse, en fait, Covid, confinement, déconfinement, avait été géré par tous ceux qui sont dans la finance, comme ils ont toujours tout géré, c'est-à-dire à leur profit, et en avaient tiré les intérêts qu'ils avaient attirés à ce moment-là. Et que le monde, en fait, de ce point de vue-là, il n'y avait pas eu d'avant et d'après, il y avait eu une continuité. Pour nous, on a eu l'illusion d'une parenthèse et d'un monde d'avant et d'après, mais en fait, pour les gestionnaires de la planète, il n'y a pas eu de monde d'avant, de monde d'après, de monde pendant. Ils ont continué à gérer la planète comme ils l'ont toujours gérée. Et, bon, un petit peu aidé quand même, je pense, par l'humain qui s'est peut-être tout d'un coup rendu compte que il faudrait peut-être réfléchir un petit peu plus à cet emballement et à cette hystérie à laquelle on a un petit peu de mal à s'extraire, et que là, tout d'un coup, on voyait que c'était peut-être possible. Mais dès que le déconfinement a été lancé, la plupart des gens, la première des choses qu'ils ont eu à l'esprit, c'est de retourner consommer. Les ventes de voitures ont augmenté de 25% par rapport à la même période l'année d'avant, et que finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas trop avoir confiance non plus en l'humain de base pour vraiment se dire « bon, là, il faudrait peut-être arrêter les conneries ». Et donc, pour moi, il n'y a pas eu vraiment de monde d'avant et monde d'après. Il y a eu une parenthèse qui, pour moi, a été très intéressante, qui a été révélatrice, en fait. Et surtout révélatrice au moment où ça s'est arrêté. Parce qu'après, la Covid, et disons, on présente ça comme quelque chose d'extraordinaire, mais c'est qu'un événement qui se rajoute à tous les événements un petit peu cataclysmiques provoqués par la dérégulation liée à la connerie humaine, quoi, je veux dire, et au capitalisme, et surtout à l'ultralibéralisme initié quand même. Parce que moi, je pense que le monde d'avant et le monde d'après se situent, à mon avis, dans les années 70-80, avec le thatchérisme, en fait. C'est là que je pense que tout a basculé, que tout a démarré, et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une conséquence, en fait, de la révolution conservatrice, en fait, des années 80, quoi. Et si un monde d'avant et un monde d'après, je pense qu'il est là. Il est avant Thatcher et après Thatcher. Et là, on est dans un aboutissement d'aboutissement, puisque ça continue encore, et je pense que ça va continuer. Et ça va continuer, à mon avis, jusqu'à ce qu'on aille vraiment dans le mur, quoi. Parce que, alors, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme, en fait. Et je crois que c'est la vérité, quoi. Et malheureusement, j'espère que ça ne sera pas la fin du monde qui arrivera avant la fin du capitalisme, mais c'est la seule solution.
Et d'ailleurs, ce qui revenait souvent dans les discours des gens, c'est qu'on vivait dans un monde, même encore maintenant, un monde de récits d'anticipation. Un peu comme dans les années 70, certains hésitaient des films de la maladie de Hambourg et tout
on
ça.
On a vécu une scène totalement apocalyptique, totalement surréaliste, en fait, et effectivement totalement science-fictionnelle, oui. Quand on sortait à un moment donné dans la rue, les rues désertes. Mais il y avait à la fois quelque chose d'inquiétant et à la fois quelque chose de très poétique, en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était assez superbe, quoi, de se retrouver avec ces rues désertes, avec ce ciel bleu. Alors là, il faisait beau, en l'occurrence, à Marseille, mais avec ce ciel bleu dégagé, avec aucune trace d'avion. Enfin, oui, on était dans la SF, on était dans une dystopie, mais finalement... Alors, évidemment, ça, c'est le côté... le côté entre guillemets positif. Maintenant, d'un point de vue économique, ça a quand même été une catastrophe. Il y a tout un tas de gens qui ont quand même excessivement morflé, qui continuent à morfler et qui ne s'en remettront peut-être pas. Alors, c'est peut-être là où on va arriver à un moment donné de rupture, une rupture. On va peut-être arriver à une rupture, parce que là, rien ne se règle vraiment quand même. On sent que ça continue à patauger. Et on essaye, on insiste avec les vieilles recettes. C'est ça surtout. On sent qu'il n'y a pas de nouvelles recettes qui vont être. Là, quand on entend tous les hommes politiques à la radio, partout, en fait, je veux dire, on retrouve toujours, ça y est, c'est reparti comme en 40, quoi. On retombe sur les mêmes schémas. Alors, il y en a quelques-uns qui essayent un petit peu de sortir du lot. Alors, j'entendais Benoît Hamon qui essayait de. Finalement, il avait un discours qui était pas trop mal, mais il n'arrivera à rien faire de toute façon. Et je pense que là, on va aller petit à petit droit dans le mur, quoi. Donc. Un avant, un après, l'après ressemblera beaucoup à l'avant, et en pire, à mon avis. C'est ça le problème, quoi. C'est que cette situation-là, on a la Covid, mais on va avoir d'autres événements de cette nature qui vont arriver, et on n'arrive toujours pas à se dire, bon, là, il faut prendre des choses en main une fois pour toutes, et faire face à ça d'une manière intelligente et réfléchie, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà.
Voilà, alors moi ce que je propose, bon là on va essayer d'un peu, pour nous c'était l'occasion vraiment de parler un peu de ton œuvre avec cette venue à Toulouse. Bon, je sais pas si tous vous êtes très familiers avec son univers, mais bon, moi j'ai découvert tes romans et tes nouvelles dans les années 80 avec les éditions Présence du Futur. Donc là, c'est la première découverte de Jacques Barbéry, mais en fait, déjà avant, tu participais, il y avait Les Locataires, par exemple, il y avait pas mal d'écritures dès les années 70, et d'emblée, tu as toujours cité aussi bien le cinéma que la littérature comme influence, comme source d'inspiration. C'était autant Philippe K. Dick que Stanley Kubrick ou 2001, par exemple.
Oui, alors 2001, c'est vraiment un élément pivot, quoi. Parce que là, c'est à la fois le cinéma et la littérature, puisqu'il y avait le bouquin d'Arthur C. Clarke, qui est le film de Kubrick. Bon, ça a été un choc. Moi, j'ai vu ça, je devais avoir quoi, 14, 15 ans. Ça a été vraiment le choc absolu, quoi. Parallèlement à ça, je découvrais également Dick, effectivement, avec Le Dieu venu du Centaure, qui est quand même un de ses bouquins les plus giclés sur la perception de la réalité, et qui fuit petit à petit, et comment, sur laquelle on a du mal à avoir prise, avec tout un tas d'histoires de drogue et d'univers où la réalité s'effiloche sans cesse. Donc ouais, ça avait été un choc. Alors ce qui a été un choc sur ces bouquins-là, pour moi, c'est que jusque-là, j'avais fait de la poésie, en fait. J'ai commencé par écrire de la poésie. Et bon, la poésie, je trouve que c'est un peu la littérature, une littérature absolue. C'est une liberté totale. Bon, c'est alchimique, en fait. C'est quelque chose d'absolument génial. Mais je sentais que j'avais besoin de structurer, d'avoir quelque chose d'un peu plus narratif, mais je ne savais pas trop comment il était possible de passer de la poésie à quelque chose de plus narratif. J'avais essayé d'écrire quelques nouvelles, mais bon, ça donnait vraiment strictement rien d'intéressant. Et c'est en lisant et en voyant 2000 Odyssées de l'espace, le roman de Dick et un roman de Ballard, Le Monde Englouti, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on pouvait conserver la mécanique poétique. Il n'y avait pas de choix à faire entre la poésie et la littérature plus fictionnelle, mais que un pont était possible, on pouvait garder la mécanique poétique et quand même structurer, avoir un projet narratif autour de cette mécanique poétique. Au début, bon, j'ai pas produit des trucs très intéressants, et petit à petit, j'ai réussi à me trouver. C'est-à-dire que Dick, Ballard et Kubrick, en fait, m'ont fait comprendre comment je pourrais réussir à écrire ce que j'avais envie d'écrire et de quelle manière je pourrais l'écrire. C'est pas vraiment une influence, mais c'est de faire voir qu'il était possible de s'exprimer d'une certaine manière et de pouvoir, voilà, ce que j'avais à dire, je pouvais le dire de cette manière-là. Et je me suis retrouvé à faire de la science-fiction parce que c'était, en fonction de ces auteurs-là, pour moi, une littérature d'une liberté absolue, en fait, qui permettait d'exprimer tous les fantasmes tout en conservant cette mécanique poétique qui tienne toujours compte du rythme, de la mélodie, des couleurs, et que le sens et l'expression d'un texte vient évidemment des concepts, des personnages, mais aussi de la forme littéraire, en fait, du produit littéraire brut. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis venu à écrire de la science-fiction, mais une certaine forme de science-fiction quand même.
Oui, puis
qui est toujours un peu dans les marges, en fait.
Oui, et qui s'est décliné aussi au fil du temps. Un des premiers romans, Une soirée à la plage, on était plus dans du space opéra, on peut dire.
Jacques Chambon avait appelé ça sur le quatrième, il avait dit que c'était de la art science fantasmée, et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a un côté art science, effectivement, on a un astronef qui aboutit sur des planètes, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, on est dans un truc totalement psychanalytique, on est dans la mémoire des personnages, en fait, à un moment donné, ça dérape, quoi. Donc c'est un space opéra mental, en fait, quoi, à vrai dire.
Et de toute façon, ça, c'est le rapport à la mémoire.
C'est
quelque chose qu'on
retrouve venu très vite,
ça. Dans tes derniers...
Oui, ça, c'est un peu une obsession. La mémoire et la perception de la réalité, en fait, quoi. Qui est liée à la mémoire, qui est liée à la temporalité, alors le temps, la mémoire, et la perception la perception, en fait, de manière générale, quoi, du monde.
Oui, parce que d'emblée, j'ai l'impression
le doute sur tout ce que notre perception nous livre, en fait.
Oui, c'est que dès le départ, j'ai l'impression que ton univers, il était très, très défini. Il y a déjà presque tout dès le début, dans tes premières nouvelles. Déjà, il y a un rapport, par exemple, au corps, qui est assez délirant. Hein. Il n'y a aucune limite dans les romans de Barbery. Les corps, ils mutent, ils se transforment.
Ils rentrent en symbiose avec d'autres, voilà. D'autres entités. Mais ça rejoint, du coup, plus récemment, ça a rejoint les travaux de Donna Haraway, en fait. Donc, anthropologue, philosophe, hein, je ne sais pas si vous connaissez... et qui essaye de définir en ce moment, hein, bon, alors on a parlé de l'anthropocène, puis du capitalocène, et là elle définit le Cthulucène. Alors Cthulucène, Cthulhu évidemment Lovecraft, mais c'est aussi parce que c'est les tentacules, c'est les poulpes, les tentacules, les ramifications, les ventouses, et c'est... L'idée, disons, un petit peu générale, c'est qu'il faudrait, alors peut-être, pour éviter la catastrophe généralisée, se resituer un petit peu dans la biodiversité d'une manière différente, essayer de trouver une place différente dans la biodiversité, plus égalitaire avec les autres espèces, avec lesquelles il pourrait y avoir des interactions, des osmoses, du symbiotisme, et de manière à se projeter dans une globalité terrestre et non pas se prendre pour le démiurge absolu de la planète et en faisant fi de tout le reste comme si c'était de la merde, quoi. Et ça serait peut-être une ouverture possible sur le devenir de l'humain, en fait. C'est qu'il essaye de se resituer différemment dans la biodiversité. Qu'il faudrait déjà un peu restaurer d'ailleurs, et voilà, et retrouver une place un peu plus égalitaire avec la vie en général, quoi, et ce qui fait la faune, la flore, etc., même les pierres à la limite sur Terre, quoi.
Et après, ton intérêt pour tu parlais de hard science. Mais ton intérêt pour la technologie, ça va de, je sais pas, de l'intelligence artificielle.
Oui, mais ben après, oui.
Ça c'est arrivé quand vraiment? Parce que toi, au départ, tu n'avais pas un parcours qui allait forcément te mener vers ça.
Ben, c'est-à-dire que j'ai quand même fait des études de médecine, malgré tout. Je suis chirurgien dentiste à la base. Bon, c'est.
Dentiste, ouais, c'est quand même.
J'ai une petite. Petit crochet. Un petit peu bizarre, mais bon. Donc tout ce qui est quand même voilà, scientifico-médical, enfin j'ai quand même déjà quelques notions là-dedans. J'ai toujours été attiré par ça, par justement tout ce qui est métamorphose, mutation, etc., a été alimenté quand même par toutes les connaissances que j'ai pu avoir pendant les études de médecine. Après, le côté plus industrie, plus mécanique, oui, là, je pense que ça vient de Ballard. Je pense qu'il y a une petite influence de Ballard quand même à l'époque d'Atrocity Exhibition et de Crash. Bon, le fameux mariage entre la chair et le métal, quoi. Voilà. Là, oui, je pense que j'ai été un petit peu influencé par Ballard, peut-être Baudrillard aussi, comment dire, c'est. Et Cronenberg d'ailleurs. Parce que le cinéma. Enfin, là, on parle pas mal de littérature, mais le cinéma. Enfin, j'ai puisé beaucoup d'inspiration. Enfin, inspiration. C'est même pas vraiment d'inspiration, mais une certaine forme de catalyse, quoi, avec certains auteurs comme Cronenberg, Lynch. Alors, Lynch, c'est plus d'un point de vue formel, c'est plus au niveau de trouver du sens, d'exprimer du sens dans ce qui est caché, ce qui ne se voit pas, ce qui est un peu entre les cases, en fait. Et ça, je trouve que Lynch est très fort. C'est-à-dire que, en fait, le plus intéressant dans un film de Lynch, c'est les parties qu'on comprend le moins, finalement. C'est là où on se questionne le plus. Et c'est plus dans l'esprit structurel et stylistique. Après, c'est vrai que Ballard, oui, avec sa période dite de béton, en fait, avec l'île de béton, IGH, l'adaptation d'IGH, d'ailleurs, est pas mal. Je ne sais plus quel est le. Je sais pas si tu.
High Rise de Ben Whitley.
Ouais, c'est oui, ça, ce qui est pas mal du tout.
Ouais, carrément.
Très bonne adaptation. L'île de béton avait été adaptée pour la télé aussi, bon, un petit peu plus classique, mais qui était pas mal. Et puis Crash, évidemment, ça a été adapté par Cronenberg. Mais l'esprit, et c'est marrant, mais l'esprit est plus proche de son fils, et du film Antiviral qui est dans la programmation de ce soir. Je trouve que Brandon Cronenberg est plus dans l'esprit de Ballard en fait que le père. On l'a souvent associé à Ballard, il a d'ailleurs adapté Crash, mais il a un petit côté, un petit peu presque à la limite du steampunk, c'est toujours un peu crade, il y a de la rouille partout, on est dans une espèce de truc. Alors que Brandon, c'est tout blanc, c'est tout métallique, c'est tout nickel, on est dans une espèce de truc high-tech total, aseptisé, très froid, et qui rejoint plus la période béton, je trouve, de Ballard en fait.
Et d'ailleurs, en parlant du cinéma, j'ai l'impression que d'emblée, quand tu avais commencé, soit dans les fanzines ou les premières éditions en poche, il y avait le travail avec Philippe Satiak notamment, il y avait déjà des sortes de mise en image de ton univers par des graphistes,
oui,
dans les livres sur lesquels, et encore aujourd'hui avec dans les livres chez La Volte. Il y a quand même presque un univers graphique Jacques Barbéry. Même si c'est pas toi qui l'assure, mais il y a les gens avec lesquels tu travailles.
Oui, à l'époque des locataires, en fait, le but c'était de travailler vraiment en symbiose, texte et image, c'est-à-dire qu'on travaillait en parallèle, et le texte initiait certains dessins, qui ces dessins eux-mêmes avaient un effet retour sur le texte. Et donc il y avait un aller-retour permanent entre le texte et l'image. Avec Sadiac en l'occurrence, Mondokan a été écrit comme ça. Et c'est pour ça que j'aime bien que ce soit, quand Mondokan est publié, qu'il y ait les dessins de Sadiac, puisqu'il y a eu vraiment un effet boomerang entre la création des dessins et l'écriture du texte. Et oui, mais je pense avoir une... C'est vrai que quand j'écris, je vois... Enfin, c'est très cinématographique, en fait. Et j'ai été de plus en plus dans ce sens, puisque là, maintenant, je suis arrivé à un point où j'ai oublié de faire un montage. C'est-à-dire que je me retrouve avec des scènes que je suis obligé de monter comme un film, en fait. Jusqu'à il y a quelques temps, j'arrivais encore à structurer une certaine chronologie, même si à l'intérieur, au niveau du récit, c'était très mouvementé, avec des problèmes temporels, etc. Mais il y avait une chronologie de l'écriture. Là, j'ai de plus en plus besoin d'avoir des paquets de scènes et ensuite de faire un montage. Donc vraiment comme un truc cinématographique, parce que je le vois en image et je vois vraiment les articulations entre les chapitres de façon très cinématographique. Il faudrait presque j'arrive à faire des zooms, voilà. Alors j'essaye d'ailleurs, mais c'est pas toujours très évident, mais avec des procédés cinématographiques, c'est très visuel en fait.
Ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que donc dans l'œuvre de Jacques Barbéry, il y a aussi tous les écrivains font pas ça, c'est que tu as repris. Par exemple, certains de tes premiers romans, tu les as retravaillés comme des director's cut presque.
Tout à fait.
Tu les as retravaillés plus tard. Il y a aussi le fait que tu as pris aussi des romans inachevés. Notamment, alors Jacques Barbéry a aussi fait pas mal de collaborations, notamment avec quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Jouanne.
Enfin, qui est décédé.
Oui. Et qui et du coup là aussi tu avais fini plus tard. Un roman que lui avait
commencé. En fait. Il avait commencé un roman et je l'ai terminé. Alors, on avait déjà travaillé ensemble sur plusieurs nouvelles, on avait publié plusieurs nouvelles. On avait même écrit un Gore ensemble, d'ailleurs, un roman de la collection Gore. Là, donc, il avait démarré un roman qu'il n'avait pas eu l'occasion de terminer. Et puis, bon. Il est mort. Et donc, c'était Combalot, d'ailleurs, qui avait récupéré le manuscrit et qui m'avait dit: est-ce que ça te dirait de. Comme toi, tu as l'habitude de bosser avec lui. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a fait plaisir d'abord de pouvoir terminer son bouquin. Hein. C'était un petit peu quelque chose que je faisais aussi pour lui, d'une certaine manière. Quoi. Mais ça n'a pas été si facile que ça, parce que j'ai dû me réapproprier, il en avait écrit quand même une très grosse partie, et donc me réapproprier sa partie de manière à l'assimiler, pouvoir la ressortir avec une articulation un peu différente pour pouvoir boucler le tout forcément à ma manière, parce que tout en tenant compte bien sûr de tous les vecteurs que lui avait déjà initiés, ça a été beaucoup plus dur. Je pensais que ça allait être plus facile. Bon, voilà, il y avait, je sais pas comment, il y avait 200 pages, on en fait encore 200 et puis c'est terminé. En fait, pas du tout. Ça a été très 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 compliqué. Ça a été très compliqué parce que j'ai dû assimiler. Pourtant, je connaissais bien son univers. Hein, on avait déjà. Mais quand il s'agit de vraiment l'intégrer pour pouvoir arriver à boucler un récit complet avec ses propres fantasmes et les siens, etc. Ça a été beaucoup plus difficile que ce que je pensais, mais j'en ai quand même un peu sué. J'étais vraiment satisfait du résultat parce que ça m'avait coûté pas mal d'énergie.
Et ça, le fait de se plonger, parce qu'on l'a pas dit, il y a aussi tout le travail de traduction, de traducteur, et le fait de se plonger dans l'univers d'un autre auteur, c'est pas forcément un exercice simple. Est-ce que ton travail de traducteur aussi, il peut nourrir ton travail d'auteur de fiction ?
Oui, que nous, déjà, toutes les lectures, en fait, toutes les lectures ou toute la vision des films nourrissent le travail d'un auteur, hein, de toute manière, je pense. Mais là, encore plus, parce que là, on rentre vraiment dans la mécanique de l'écriture. Donc, ça, c'est très intéressant, parce qu'il s'agit de rendre, en plus, en français, le rythme, la musicalité, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, finalement, la fluidité d'une autre langue. Donc, on est obligé de voir comment les phrases sont structurées, comment tout ça est combiné. Oui, c'est très intéressant. Au niveau du style, c'est très intéressant. Maintenant, au niveau du contenu, c'est comme n'importe quelle autre lecture, en fait. Hein. C'est une lecture ou une traduction, c'est pareil. On lit un auteur et ça apporte toujours quelque chose. Mais au niveau de la structure du récit, la structure des personnages et du style, oui, c'est très intéressant. Parce que là, on est obligé d'aller plus loin qu'une simple lecture. Bon, quand on est auteur, on lit toujours un peu différemment, on a toujours tendance un peu à voir comment le bouquin est construit, etc. Mais là, on est vraiment obligé d'aller au fond de la phrase, quoi, enfin, au fond de la phrase. Et ça, c'est très intéressant. Oui, ça apporte toujours quelque chose, oui, bien sûr. Surtout si l'auteur est un auteur intéressant, bien sûr.